le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, bienvenue au magazine des Nations Unies. Voici les principaux titres. La CENI est appelée à publier un calendrier global des élections dans les délais constitutionnels. C'est le message des envoyés spéciaux de la communauté internationale dans les Grands Lacs lors de leur séjour à Kinshasa du 2 au 3 juin dernier. Martin Kobler a réitéré cette demande à la conférence hebdomadaire des Nations Unies ici à Kinshasa. C'est l'un des points de l'actualité de la semaine. Le PAM redynamise ses programmes d'activité avec comme priorité l'aide humanitaire d'urgence. Ceci après la fermeture d'un peu moins de la moitié de ses bureaux dans le pays. Les raisons et l'impact de cette mesure seront décryptés par le représentant du PAM en RDC. Enfin, des leaders religieux impliqués dans la dynamique des stratégies de lutte contre le VIH-SIDA. Un atelier a été organisé à leur intention du 20 au 22 mai dernier avec l'appui de la section VIH-SIDA de la MONUSCO et de l'ONU-SIDA. Les détails dans un instant.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
La semaine qui s'achève a été marquée par la visite de travail des envoyés spéciaux de la communauté internationale dans les Grands Lacs à Kinshasa du 2 au 3 juin. Ils ont eu des entretiens avec le président de la République, le premier ministre, des représentants du gouvernement, de la société civile, de l'opposition et de la communauté internationale. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Martin Kobler, est revenu sur cette visite mercredi dernier lors de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. Il a réitéré la position des envoyés spéciaux sur des points estimés essentiels tels que les élections et la situation sécuritaire en RDC. Le point avec Jean-Pierre Elali Coco.
D'abord, en ce qui concerne les élections, le chef de la MONUSCO a réitéré la demande des envoyés spéciaux. La CENI est appelée à publier un calendrier global, calendrier allant des élections locales aux présidentielles. Et c'est là dans les délais constitutionnels entre 2014 et 2016. Martin Kobler.
La communauté internationale et les envoyés spéciaux ont fait très très clair qu'on est prêt à soutenir ce processus démocratique d'avoir des élections libres, justes, transparentes, pacifiques ici dans le pays. Mais il a certaines conditions pour le financement et c'est d'avoir un calendrier global des élections locales, provinciales, nationales et présidentielles.
Pourquoi les envoyés spéciaux demandent-ils un calendrier global des élections? Écoutez la réponse du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC.
C'est très important de voir tout le calendrier de local jusqu'à provincial jusqu'à national en même temps afin d'être en position de déterminer le financement de l'opération. Pas de dire maintenant les locales, ça coûte 300 millions de dollars, alors l'argent est épuisé et qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est très simple. Alors il faut la totalité des élections et puis on dit ça coûte, je ne sais pas, 900 millions ou 800 millions. Qu'est-ce que finance le gouvernement? Qu'est-ce que finance la communauté internationale sur cette base? Alors, c'était la déclaration hier du team des envoyés spéciaux.
Ensuite, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Martin Kobler indique que les envoyés spéciaux ont noté des efforts des FARDC dans la traque des ADF, les rebelles ougandais.
La situation sécuritaire à l'Est, on a très très apprécié aussi envers le président de la République les efforts des FARDC dans le combat contre les ADF. Je sais, on concentre les discussions sur les FDLR, maintenant la reddition et aussi les déclarations des FDLR, c'est aussi très important, mais il faut apprécier les efforts des FRDC dans leur combat contre les ADF.
Autre sujet évoqué, c'est les FDLR. Martin Kobler rappelle la déclaration des envoyés spéciaux ainsi que celle des FDLR eux-mêmes. Ces deux déclarations ont trait à la démobilisation et au cantonnement des rebelles rwandais et leurs dépendants. C'est la dernière chance pour régler la reddition pacifique des FDLR, lance-t-il avant de préciser qu'il faut rester prudent et que l'option militaire est toujours sur la table.
Autre actualité de la semaine, deux officiers judiciaires de la police arrêtés au cours de la ronde qu'effectue depuis le 12 mai dernier la vice-ministre aux droits humains dans les cachots de Kinshasa. Le bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, BCNUDH, accompagne la vice-ministre Sakina Binti dans cette tournée. Le mardi dernier, le directeur du BCNUDH a expliqué l'intérêt de ses visites. Scott Campbell s'est exprimé au micro d'Honoré Missinga Kalala.
Ce que nous avons retenu d'une manière globale, il y a eu une initiative qui était prise par le ministère de Justice et des Droits Humains qui est vraiment à saluer. Il y a une initiative de visiter les différents lieux de détention, la ville de Kinshasa, de faire le diagnostic, de voir comment on peut aller de l'avant. Nous avons noté les conditions déplorables dans certains lieux de détention, mais nous avons vu aussi la volonté du ministère et de la justice congolaise et de la justice militaire congolaise d'ouvrir la porte, de faire le constat avec ses partenaires internationaux, notamment les Nations Unies, et de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces conditions. Il y a eu des actions très concrètes qui étaient déjà prises. Il y a eu des OPJ qui étaient arrêtés sur la place. Il y avait eu certaines violations qui étaient constatées par son Excellence, le vice-ministre aux droits de l'homme. Et il y a eu des sanctions qui étaient prises sur place.
Selon le BCNUDA, jusqu'à mardi 3 juin dernier, la vice-ministre à la justice avait visité 57 cachots, rencontré 614 détenus, dont 54 femmes et 41 mineurs. Elle a fait libérer 91 personnes victimes d'arrestations arbitraires. Par contre, deux OPJ auteurs d'arrestations arbitraires ont été eux-mêmes arrêtés sur place.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le PAM RDC, Programme Alimentaire Mondial en République démocratique du Congo, a décidé de fermer 5 de ses 11 bureaux dans les provinces. À la base de cette mesure, des contraintes logistiques et la priorisation des interventions d'urgence, précision de Martin Olsen, représentant du PAM en RDC. Olsen met un accent particulier sur le redressement des activités du PAM et l'intérêt que cette nouvelle orientation suscite auprès des donateurs. Le représentant du PAM s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco.
Monsieur Martin Olsen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes représentant du PAM en RDC. Le PAM vient de fermer 5 de ses 11 bureaux à travers la RDC. Pourquoi avoir fermé ce bureau, Monsieur Olsen?
La fermeture est un résultat d'une prioritisation de nos programmes sur les interventions d'urgence. Il y a aussi certainement une contrainte logistique qui nous a fait réagir ainsi. On ne peut pas atteindre certains sites et les coûts sont exorbitants d'y aller. Donc il y a deux, trois raisons qui ont fait que ces sites ont été fermés. Je dois dire que au même temps, certains de nos bureaux étaient des bases logistiques, comme par exemple Guémena et Beni et Dungu. Donc le redressement vers des sites plus importants comme Bunia, Goma et Bandaka font aussi que cette fermeture n'est pas une fermeture pour ne plus intervenir dans ces zones, c'est seulement un redressement pour travailler plus économiquement.
Et alors, cette fermeture-là des 5 bureaux peut avoir un impact direct sur les bénéficiaires de l'aide du PAN?
Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'impact, parce qu'il est vrai que nous étions obligés, dans la priorisation, d'aller plutôt vers l'assistance humanitaire et ne plus faire des programmes à long terme. Je vous parle, par exemple, des cantines scolaires. Nous faisons toujours des cantines scolaires, mais seulement dans les endroits où il y a des déplacés ou des gens qui retournent vers les sites. Nous ne faisons plus les cantines scolaires pour toute une année dans certaines zones.
Tout récemment, un communiqué du PAM avait annoncé une importante contribution en plusieurs millions de dollars des donateurs dans vos activités. Maintenant, cela paraît contradictoire que le PAM se plaignait du manque de ressources. Comment expliquer cela?
Voilà, c'est très bien que vous posez cette question. Il est vrai que les donateurs, ils nous ont accompagnés dans cet redressement que nous avons fait. Et les donateurs ont repris confiance. Vous savez, c'est important que nous, et aussi pour le Congo, on montre aux donateurs que nous ciblons, nous prioritisons pour que l'aide ait un véritable impact. On a regagné leur confiance et ils nous supportent maintenant beaucoup plus à un rythme, pas accéléré, mais plutôt un niveau en conséquence de nos programmes. Donc ça va vraiment mieux qu'il y a 6 mois. On avait des problèmes d'approvisionnement importants et on manquait effectivement de ressources.
Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour que ça aille mieux?
Je pense que le redressement et notre concentration sur sauver des vies, protection, nutrition et à accompagner les déplacés ainsi que les retournés a fait que nos interventions aussi dans les points chauds, je peux vous parler de Irumu, je peux vous parler de Katanga, le triangle de la mort, Rutshuru, réfugiés centrafricains. Donc cette ciblage des points chauds a fait que les donateurs ont vraiment vu que on redressait la barre et on n'était pas impliqué dans toutes les activités, mais vraiment ciblé.
Oui. Monsieur Orsen, le Nord Kivu est l'une des provinces où vous êtes beaucoup plus actif. Et la distribution des vivres aux déplacés a été réduite. On parle de la distribution, non pas selon les statuts, mais selon la vulnérabilité. Pouvez-vous alors expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que cela signifie?
Oui, merci pour cette question. Elle est effectivement toujours un peu difficile à comprendre. Le statut d'un réfugié, d'un statut d'un déplacé, dépend pour nous vraiment de sa vulnérabilité, donc son degré de pauvreté, son degré d'être amené à mendier. Parce qu'il y a des déplacés qui se déplacent aussi en véhicule, en moto. Donc, ils sont beaucoup moins vulnérables.
Non, lorsqu'on parle des déplacés, je précise qu'on voit plutôt des gens démunis qui vont d'un village à un autre, qui fuient les atrocités.
Ouais, j'en ai arrivé.
Oui.
Et c'est surtout les femmes ou les enfants non accompagnés. Et c'est là que vous voyez, c'est visible cette vulnérabilité. Donc, nous ne faisons pas ce choix comme par hasard. On analyse, on fait tourner les équipes avec des questionnaires pour arriver vraiment à ces gens-là. Je vous explique aussi que dans le Nord Kivu, certains sites sont là depuis longtemps. Donc, certains des habitants de ces sites font des petits travaux. Ils se sont intégrés quelque part un peu dans la communauté. Donc, ils sont beaucoup moins vulnérables. Et c'est là que nous cherchons à, par exemple, faire dans les sites, auprès des sites, des interventions nutritionnelles. Aussi, les écoles. Donc, les écoles qui arbitrent donc les enfants des déplacés. Donc, c'est cette ciblage qui est basée sur la vulnérabilité.
Est-ce que vous avez d'autres programmes à travers les pays où vous intervenez à part la distribution des vivres?
Oui, d'abord, j'aimerais bien dire que quand on fait des distributions de vivres, on les fait souvent très conjointement avec d'autres agences Nations Unies et puis les ONG qui ont une certaine capacité. Donc, il ne faut pas oublier, souvent, c'est des programmes conjoints. Et il est vrai que nous ne distribuons pas seulement des vivres, mais aussi du cash, donc de l'argent ou des bons d'achat. Nous intervenons, comme je disais tantôt, chez les réfugiés, en Équateur, là aussi c'est des bons d'achat et des vivres, une combinaison, des fois aussi du cash.
Là vous parlez des réfugiés centrafricains qui sont en RDC?
C'est exact.
Okay.
Donc, ensuite il y a des projets qui sont connus sous le sigle P4P, donc l'encadrement des petits paysans dans la région de Bandaka Bikoro, mais aussi Kabalo Katanga. Ça c'est des projets hors budget, on peut dire, des projets financés précisément par 2 donateurs et ils sont vraiment des projets de développement. Je voudrais juste ajouter, nous sommes aussi l'opérateur de UNHAS, donc 4 avions qui transportent que des humanitaires.
Ce sont des avions du PAM.
Ça, c'est des avions du PAM, ce n'est pas les avions de la MONUSCO. Et nous transportons par mois environ 3000 personnes et aussi un peu du cargo. Un réseau qui est ciblé sur l'Est et aussi sur l'Équateur.
Et quels sont les difficultés que le PAM rencontre ces derniers temps, surtout pour assister les déplacés et autres réfugiés?
Le problème d'accès, je crois que c'est le primordial. Coût y afférent aussi, parce que souvent vous êtes même obligé d'ouvrir une route pour atteindre les bénéficiaires, même recourir à prendre un avion pour amener des vivres. Donc je crois que c'est vraiment l'accès à des endroits qui est très problématique. Il y a aussi la sécurité. Donc même si vous avez accès, il se peut qu'il n'y a pas une bonne sécurité. Et je ne parle pas trop de la sécurité vers les endroits, mais même aux endroits où vous distribuez, il faut une couverture de l'État, la police et même les militaires. Je crois que ça, c'est les plus grandes difficultés. Je ne vais pas vous parler des ressources, ça va avec, mais je pense que c'est ça pour tous les humanitaires, c'est l'accès aux déplacés et réfugiés, des contraintes de sécurité et d'accès technique, logistique.
Une toute dernière question, que vous êtes le numéro 1 du PAM ici en RDC, quels sont les projets quelles sont les priorités pour le PAM pour l'instant et dans les 2 ou 3 ans à venir en République démocratique du Congo.
Oui, mais je crois qu'on va rester sur cette lancée que je viens de citer, qui est une lancée après la prioritisation. Mais on cherche, par exemple, de unir avec UNICEF dans les 2 Kassai pour amener des projets et des interventions nutritionnelles. Il y a une crise nutritionnelle proprement dit dans ces zones-là, également dans le Bandundu. Je crois que si je peux visualiser qu'est-ce qu'on pourrait faire d'ici 2-3 ans, c'est vraiment renforcer les interventions nutritionnelles dans le pays et aider à ce que les déplacés qui se réintègrent dans les communautés de faire des programmes de réintégration de ces déplacés internes.
Martin Olsen, nous vous remercions de votre disponibilité.
Merci beaucoup.
À présent, nos nouvelles en bref. 49 enfants associés au groupe armé répertorié la semaine dernière. Des cas documentés par la section protection de l'enfant de la MONUSCO. Information livrée au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier à Kinshasa. Le recrutement aurait été perpétré par des ADF, des FDLR, les Mai Mai Yakutumba, les Nyatura, l'UPCP et le groupe armé Maélé. Ces enfants âgés de 11 à 17 ans auraient été recrutés entre 2011 et mai dernier. Autre nouvelle, l'UNESCO a organisé du 5 au 6 juin à Kinshasa la 5e réunion régionale des comités nationaux du programme hydrologique international en Afrique. Le thème de ce forum était sécurité de l'eau pour tous. Il faut savoir que l'ONU définit la sécurité de l'eau comme étant la capacité d'une population à avoir accès à des quantités d'eau suffisantes et de qualité acceptable pour sa subsistance, son bien-être et son développement socio-économique. Enfin, la Coupe du Monde sur écran géant à l'échangeur de Limité à la place du 30 juin à la gare centrale à Kinshasa, une initiative de la MONUSCO en partenariat avec la ville de Kinshasa, Labra Lima et Vodacom. Très bientôt, vous aurez les détails de ce programme qui, j'en suis sûre, vous fera le plus grand plaisir.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'épidémie du VIH-Sida reste un défi pour la RDC. Ainsi, le plan stratégique national multisectoriel de lutte contre cette épidémie pour la période allant de 2014 à 2017 redéfinit-il les orientations stratégiques de mobilisation des ressources pour y faire face. Au nombre des stratégies, la RDC et ses partenaires dans la lutte contre le VIH-Sida intègrent la dynamique communautaire, notamment à travers les leaders religieux. C'est dans ce cadre qu'un atelier a réuni du 20 au 22 mai dernier à Kinshasa une trentaine de leaders religieux de la capitale. Dr. Lys Lombea Lissomba de la section VIH-Sida de la MONUSCO était parmi les orateurs de cette formation. Elle a accordé une interview à Honoré Missenga Kalala à ce sujet.
Docteur Lys Lombea, bonjour.
Bonjour.
Docteur, on est dans la dynamique communautaire pour lutter contre le VIH-Sida et les violences sexuelles. Dans cette dynamique, vous embarquez les leaders religieux. Pourquoi ?
Oui, d'abord je vais recadrer l'intervention de la MONUSCO. Dans le mandat de la MONUSCO, il est aussi question, dans la section VIH-Sida, d'appuyer la communauté, parce que nous avons différents volets au sein de la MONUSCO et au sein de la communauté. Et dans ce volet d'appui à la communauté, nous devons aller dans le sens des activités retenues dans le plan stratégique national de la RDC. C'est comme ça qu'aujourd'hui, la section VIH-Sida appuie une activité communautaire réalisée par le PNMLS et cette activité est le renforcement de la dynamique communautaire au travers des leaders religieux dans la lutte contre le VIH-Sida et les violences sexuelles.
Oui, quels sont les objectifs de cet atelier ?
Comme vous le savez, la pandémie du sida préoccupe tout le monde. Il y a différentes stratégies qui sont mises en œuvre au niveau de différents pays. Et dans ces stratégies-là, il est question d'impliquer aussi les leaders communautaires. Comme ils ont un grand pouvoir sur leurs fidèles, comme ils peuvent avoir de l'influence sur ces fidèles, ils peuvent donc par là renforcer le changement des comportements de leurs fidèles et ainsi donc lutter contre le VIH-Sida et les violences sexuelles.
À l'issue de cet atelier, il est question d'obtenir des leaders religieux la signature d'un acte d'engagement. Vous pensez que les leaders religieux peuvent s'engager à quoi, par exemple, dans le cadre de cette lutte ?
En fait, il ne s'agit pas de faire une signature, mais plutôt de renouveler l'engagement. Leur participation à cet atelier est déjà un renouvellement de leur engagement qu'ils avaient déjà signé, qu'ils avaient déjà pris il y a de cela plusieurs temps.
Vous attendez de quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leurs fidèles par rapport à la lutte contre le sida?
Il y a des églises qui ont des plans d'action par rapport à la lutte contre le VIH-Sida et les violences sexuelles. Il y en a qui n'en ont vraiment pas. Donc, pendant ces deux journées, nous allons échanger les expériences. Et au sortir de ces deux journées, nous voulons qu'il y ait une feuille de route, des activités retenues pour toutes les églises qui pourraient les aider à lutter contre le VIH-Sida, à accompagner leurs fidèles dans la lutte contre le VIH-Sida et les violences sexuelles.
On peut aussi envisager la distribution des préservatifs.
C'est un moyen de prévention. L'utilisation correcte des condoms est un moyen de prévention. Je ne sais pas si beaucoup d'églises optent pour cette voie-là. Habituellement, nous savons que les églises prennent la fidélité, prennent l'abstinence, mais nous allons leur faire voir que l'utilisation correcte du condom est aussi un moyen de prévention. Mais maintenant, les stratégies qu'elles vont retenir pour leurs églises respectives dépendent de la vision d'une église et une autre.
En dehors des leaders religieux, quel autre public cible que vous pourriez envisager, par exemple, dans cette lutte?
Nous, ici à la section VIH-Sida, nous sensibilisons les élèves, la communauté, la police, les FRDC, la société civile, les ONG, toute cible susceptible d'accompagner, de contribuer à la lutte contre le VIH-Sida. Quand nous en avons l'opportunité, nous l'accompagnons, nous la sensibilisons.
En dehors de la participation dans des campagnes comme celle-ci, parce qu'il s'agit d'une campagne, quelles autres stratégies la section VIH-Sida de la MONUSCO utilise pour combattre le VIH-Sida et les violences sexuelles?
Évidemment, nous avons au sein de la mission même des activités propres, internes à la mission. Nous avons la sensibilisation, la formation des pères éducateurs, nous avons l'offre de services de dépistage volontaire, nous avons l'offre de PEP kit pour ceux qui sont exposés, nous avons aussi le recyclage des personnes qui restent longtemps au sein de la mission. Ça, c'est interne à la mission. Nous avons aussi des activités avec d'autres agences des Nations Unies. Donc, nous avons différentes activités pour lutter contre le VIH-Sida, pour contribuer à la riposte au VIH-Sida.
Docteur Lise Lombaya, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Notre nouvelle de province parle environnement. Le réseau des aires protégées de la RDC vient de bénéficier d'une extension de financement de la Banque mondiale de l'ordre de 14 600 000 dollars américains pour la période allant de 2014 à 2018. Annonce faite à Goma mardi dernier par le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC et au Congo-Brazzaville. Eustache Wayoro était à la tête d'une délégation mixte ICCN Banque mondiale en tournée d'évaluation de la première phase de ce programme qui couvrait la période de 2009 à 2014. Pour lui, les actions de la Banque mondiale visent à promouvoir les activités de conservation de la riche biodiversité de la RDC. Il est au micro de Bernard Danyangi.
J'arrive du parc de la Garamba. Je suis allé visiter avec mes collègues et puis l'ICCN le fonctionnement de ce parc qui est très important. Et là, je viens à Goma pour également visiter le parc des Virunga. La Banque mondiale est impliquée dans le financement du fonctionnement de ces deux importants parcs qui font partie des sept parcs naturels de la RDC. Nous ne travaillons pas seulement sur ces deux parcs, nous avons également des interventions dans le parc de la Maïko et nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons soutenir le parc de Kahuzi-Biega dans le sud Kivu. Et nous sommes également engagés dans la restauration des jardins botaniques. C'est également une partie du patrimoine floristique et naturel de la RDC. Et il est important de soutenir ces différentes structures. Et donc nous sommes en mission de suivi avec le responsable du projet qui est arrivé de Washington. Et je vais m'assurer que nos opérations fonctionnent comme elles se doivent et que les financements que nous apportons au parc permettent de maintenir non seulement la qualité de la gestion de ce parc, mais également la population des espèces animales importantes pour ce parc.
Signalons que la première phase de ce financement était de l'ordre de 2 400 000 dollars pour le parc national de Virunga et 2 100 000 dollars pour la Garamba.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Le cantonnement des FDLR à Walikale contesté par la population, la question de Gabriel Waimenia de Radio Kapi Goma, suivie de la réponse du général Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en charge des opérations. Suivez.
Dans une lettre adressée à Martin Kobler, il y a les organisations de la société civile de Walikale qui s'inscrivent en faux sur les cantonnements et le regroupement des FDLR dans leur territoire. Alors, nous voulons savoir s'il y a des nouveaux mécanismes mis en place par la MONUSCO dans ces processus de cantonnement ou de démobilisation, si on peut.
Par rapport au plan de reddition des FDLR qui est actuellement en cours d'exécution dans le sud Kivu et le nord Kivu, effectivement, le plan de reddition qui a été présenté par le gouvernement congolais avait retenu la localité de Walikale comme centre de regroupement. Mais après des discussions pour son opérationnalisation, il a été convenu de ne plus retenir Walikale. Donc vous pouvez rassurer les populations, la société civile de Walikale que l'opération n'aura pas lieu à Walikale. Par contre, comme vous le savez, les localités retenues au nord Kivu, c'est Beleusa, la cérémonie du 30 mai a eu lieu à Katepu. Mais le site de regroupement, de désarmement des FDLR dans le Nord Kivu, c'est la localité de Beleusa. Et ensuite, ils sont transportés à Kanyabayonga, où se fait le triage, centre de triage au Nord Kivu. Au Sud Kivu, la localité qui a été retenue, c'est Kigogo pour le désarmement. Ensuite, la localité de Mwenga et de Walungu comme centre de triage avant de les envoyer dans les aéroports pour leur plan de localisation.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Okapi. Moi, c'est le Major Fike Pamphé. Je suis de la République du Bénin. Je suis officier supérieur de l'armée béninoise. Je suis marié et père de deux enfants, un garçon et une fille. Actuellement, au sein de la mission de la MONUSCO, je suis le porte-parole militaire adjoint. Mes tâches quotidiennes se résument à lire les journaux pour dégager l'information utile pour les autorités militaires à travers la revue de presse. Également, lire les comptes rendus militaires des différentes unités déployées et ceux des head office pour être au courant des événements et préparer les conférences de presse de lundi et vendredi avec Goma et celles hebdomadaires du mercredi à partir de Kinshasa. Également, mon job est de faciliter le travail quotidien des journalistes auprès des unités militaires. Et comme c'est le cas actuellement, en absence du porte-parole militaire, je le remplace dans toutes ses fonctions. Bon, pour parler de mon cursus scolaire académique, il faut dire que comme un officier, on a généralement deux cursus. Un cursus militaire et un cursus académique. Pour le cursus militaire, j'ai eu le parcours normal. J'ai fait ma formation d'officier au Maroc. Après, je me suis spécialisé en infanterie des troupes aéroportées en France. J'ai fait le cours de commandant d'unité au Sénégal. Et tout dernièrement, j'ai eu la chance de faire le brevet militaire de premier degré au Gabon. Et comme cursus universitaire, j'ai eu le bac en 1994. J'ai eu une maîtrise en droit, option diplomatie et relations internationales. Également, j'ai un master, option droit de l'homme. Également, j'ai touché un pied de l'anglais où j'ai eu un certificat d'instructeur d'anglais américain. Parlant de mon expérience professionnelle, il faut noter que j'ai eu le parcours normal d'un officier. J'ai été chef de section, j'ai été commandant d'unité. J'ai eu la chance également de commander un bataillon au nord du Bénin. Avant d'arriver ici, j'exerçais les fonctions de chef bureau à la division des opérations. J'étais chef bureau des opérations en cours à l'état-major général du Bénin. Également, j'ai eu une expérience des missions extérieures. J'ai été commandant d'unité dans la mission de l'ONU au Libéria. J'ai été chef des opérations du bataillon béninois en 2006 en Côte d'Ivoire. Et en 2008, j'étais ici dans le Katanga comme chef des opérations du bataillon béninois. J'occupe mon temps libre à lire, à surfer, à faire du sport. J'aime beaucoup les jeux qui ont trait à l'intelligence, c'est-à-dire que les jeux qui développent un peu l'intelligence, je fais de dames, je fais de l'échec, je fais du sudoku. Également, j'aime la musique, j'écoute beaucoup le zouk. Et il faut noter que mon espoir est qu'en quittant ici, je puisse avoir la chance de faire le niveau 2 du brevet militaire, c'est-à-dire l'école de guerre. Pourquoi pas faire un doctorat après et finir comme Je voulais dire, fini comme un fonctionnaire international. Excusez-moi de l'émotion. Alors, je vous remercie. J'espère vous retrouver très vite.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Cap.
Prenez note de ce rendez-vous. Il est prévu du 10 au 27 juin à Genève. C'est la 26e session du Conseil de droits de l'homme. De plus, deux journées mondiales sont à retenir. Le 12 juin, journée mondiale contre le travail des enfants. Et le 14 juin, journée mondiale du don du sang. La fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nicole Ngaka était à la supervision, Jean-Pierre Elali Koko à la coordination, Honoré Missinger reportage, héritier Sylvia Kala à la régie et moi, Mila Kimbini, à la présentation. Une émission à réécouter sur notre site internet radiocapi.net. Nous attendons donc vos suggestions, vos questions ou vos remarques comme commentaires sur le site internet. Autre moyen de nous joindre, notre mail maguen@radiocapi.net et notre numéro de téléphone 082 30 76 630. Très bon dimanche à vous. Au revoir.